C'est une des découvertes les plus importantes autour de notre cerveau et elle est plutôt récente. Il s'agit de la plasticité cérébrale, le fait donc que notre cerveau soit capable de se modifier en permanence selon les événements. Le cerveau siège de notre pensée est donc malléable et cette découverte a bouleversé les neurosciences. Et à l'occasion de la semaine du cerveau, la tête au carré s'intéresse à la plasticité cérébrale, à la façon dont notre cerveau a évolué et puis aux implications des recherches sur cette plasticité. Nos invités vont nous guider dans les réseaux de nos neurones et répondre à toutes vos questions, vos messages. Franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque.
Mathieu Vidard.
La plasticité cérébrale, c'est donc le dossier de l'émission dans quelques minutes avec vous, Armelle Rancillac, Hervé Schneves et Philippe Vernier. Bonjour à tous les trois. Armelle Rancillac, notre cerveau, c'est donc du plastique et pas de l'élastique. La nuance est de taille quand même, hein.
Tout à fait, parce que ce n'est pas notre cerveau dans sa globalité qui va donc augmenter ou diminuer en taille, mais plutôt ses composants intra-neuronales, donc les neurones, qui vont être modifiés à différents niveaux, comme on va pouvoir le voir tout à l'heure.
Hervé Schneves, la découverte justement de la plasticité cérébrale, c'est une sacrée révolution dans la compréhension de notre cerveau, et c'est plutôt assez récent quand même, hein.
Oui, quand même une quarantaine d'années, mais l'idée a prévalu d'abord d'un cerveau qui était acquis très tôt. Tout était joué avant 3 ans.
C'est ça, il y a un déterminisme terrifiant.
Voilà, et puis on se rend compte que, comme on le connaît depuis l'aube de l'humanité, on apprend tous les jours et on apprend parce que notre cerveau se remodèle tous les jours.
Il peut donc changer quasiment tous les jours. On verra ça avec vous. Philippe Vernier, quelle est la principale particularité du cerveau humain par rapport aux autres primates, s'il vous plaît?
Si on parle de plasticité, une des grandes particularités, hormis ces 2 millions d'évolutions par rapport aux autres animaux, c'est le fait que le petit d'homme, quand il naît, a un cerveau qui n'est pas fabriqué du tout et la croissance cérébrale dure encore plusieurs années après la naissance, ce qui permet justement à tous les événements extérieurs d'imprimer leur marque sur un cerveau qui n'est pas fini du tout et qui est une des particularités qui fait que l'homme peut développer une culture, par exemple, grâce à ce cerveau.
Et ça, c'est pas le cas chez les chimpanzés, par exemple ?
Non, c'est pas le cas chez les chimpanzés. Justement, si on compare la croissance du cerveau d'un bébé chimpanzé après la naissance, le cerveau continue à grandir, bien sûr, avec le corps, mais proportionnellement beaucoup moins vite que le corps. Alors que le petit d'homme va avoir à peu près la même vitesse de croissance cérébrale pendant les premières années de sa vie qu'il a dans le ventre de sa mère. Et donc cette incroyable croissance, ce grossissement, si vous voulez, du cerveau après la naissance a des conséquences très importantes pour ce que l'homme est par rapport aux autres animaux.
Allez, on va se retrouver dans un instant pour emprunter donc les sentiers de la plasticité cérébrale avec les messages des auditeurs.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Plasticité cérébrale au menu de l'émission cet après-midi, c'est à l'occasion de la semaine du cerveau qui démarre aujourd'hui dans toute la France. 3 invités pour en parler et répondre à vos messages. Armelle Rancillac, vous êtes chargée de recherche INSERM au laboratoire plasticité du cerveau du CNRS et dans l'équipe réseau neuronaux du sommeil. Hervé Schneves, vous êtes directeur de recherche CNRS et directeur du laboratoire plasticité gliale à l'INSERM. Vous êtes responsable du département neurosciences de l'Institut de biologie à l'université Pierre et Marie Curie. Vous êtes président du comité d'éthique de l'INSERM. Et puis Philippe Vernier, vous êtes directeur de l'Institut des neurosciences à Paris-Saclay. Et vous donnerez d'ailleurs mercredi à 13h à Neurospin une conférence sur l'évolution de l'homme et du cerveau humain. Et ça, justement, dans la semaine du cerveau. Armelle Rancillac, vous êtes membre du comité d'organisation parisienne de cette semaine. Pourquoi d'ailleurs une semaine dédiée à notre bel organe?
Oh ben, il ne faut pas non plus noyer les gens sous l'information, mais une semaine, c'est déjà assez riche pour aborder le sujet sous différents angles, donc c'est un bon format.
Bon, c'est pour faire connaissance aussi un peu mieux avec le siège de notre pensée?
En espérant, oui, voilà. Ouais. Mieux connaître les recherches actuelles et aussi mieux connaître cet organe.
Hervé Schneves, il y a une méconnaissance, selon vous, de notre cerveau et de tous ces circuits?
En tout cas, un éveil insuffisant. C'est pour ça que, au niveau international, hein, cette semaine du cerveau, elle est sur toute l'Europe et dans le monde entier. Il y a besoin de meilleures connaissances. Meilleures connaissances parce que les maladies du cerveau, que ce soit les maladies neurologiques ou les maladies psychiatriques, représentent 1/3 des dépenses de santé. Méconnaissance parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. On croit connaître le cerveau parce que depuis l'aube de l'humanité, l'homme pense avec ce cerveau et croit savoir quelque chose de lui. Et en fait, depuis une cinquantaine d'années que les neurosciences ont pris leur essor, on va de découverte en découverte, depuis le traitement inconscient naturel de l'information, la neurophysiologie du traitement de l'information, jusqu'aux découvertes les plus récentes, justement sur la plasticité, l'existence de cellules souches et le remaniement du cerveau tout au long de la vie.
Philippe Vernier, l'Institut des neurosciences Paris-Saclay, ça c'est tout récent. C'est quoi le but de cet institut-là qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines?
Effectivement, le 1er janvier, donc c'est de regrouper en fait tous les chercheurs en neurosciences de la région sud de Paris autour d'un seul site pour pouvoir créer toutes les synergies. Donc l'Institut se construira à côté de Neurospin, sur le centre de Saclay, donc dans cette banlieue sud de Paris. Et donc ça sera le plus gros centre de recherche en neurosciences français.
Et c'est un dialogue entre beaucoup de disciplines.
C'est un dialogue entre les disciplines les plus moléculaires dont on entendra parler tout à l'heure, jusqu'à, bien sûr, les études cognitives comme celle sur la conscience. Que vous connaissez bien ici à la Tête au Carré.
Armelle Rancillac, alors la plasticité cérébrale, c'est votre domaine. De quoi on parle alors exactement?
Alors c'est un phénomène qui touche essentiellement donc les neurones et à différents niveaux du neurone, c'est-à-dire ça va partir de l'expression moléculaire que le neurone va pouvoir mettre en avant en fonction des conditions dans lesquelles il se trouve. Également aussi en fonction des contacts synaptiques avec les autres neurones qu'il va pouvoir établir, notamment en formant des épines ou en allongeant ses prolongements, donc les dendrites ou les axones, et également en changeant sa connectivité avec les neurones. Donc il y a vraiment différents niveaux de modulation de l'information. Et donc le neurone, à savoir donc sa décharge et son activité électrique, va être dépendante de tous ces modifications à ces différentes échelles.
Et donc c'est l'aspect malléable en fait de notre cerveau là que vous décrivez au fond, c'est ça?
Et voilà, le neurone va pouvoir modifier et ses contacts synaptiques et les molécules qui renforcent ces contacts synaptiques et son câblage pour pouvoir s'adapter, acquérir de nouvelles compétences, mémoriser ou pallier des déficits liés à des AVC ou des...
Alors c'est ça ce que vous disiez tout à l'heure, Hervé Schneves. Pendant assez longtemps, on a pensé que le cerveau était déterminé, quoi. Il était fixe et ça ne changeait plus.
Voilà, que c'était un acquis et qu'on restait là. Alors, juste pour compléter ce qu'Armel vient de dire, le cerveau, en tout cas un cerveau humain adulte, c'est à peu près 200 milliards de cellules. Sur ces 200 milliards de cellules, il y a 70 milliards de neurones. On va avoir 100 kilomètres de vaisseaux sanguins. Et puis, il va y avoir 120 milliards d'autres cellules qui sont les cellules gliales.
Ah, ça c'est vos petites cellules chéries, ça,
voilà,
quand même. Hein.
Et qui, elles aussi, participent de la plasticité à toutes les échelles, depuis la plasticité synaptique, c'est-à-dire le contact entre deux neurones, qui en fait aujourd'hui est devenu un contact tripartite, deux neurones plus un pied d'une cellule gliale, l'astrocyte, qui va réguler la communication, jusqu'à des étapes plus larges, des changements d'architecture, par exemple l'air du cortex cérébral dédié à la main gauche chez un violoniste virtuose est d'un tiers supérieur à ce qu'elle est chez vous et moi qui ne savons pas jouer du violon.
Oui, donc ça se voit vraiment. Il y a une vraie différence en tout cas et ça se mesure.
Alors ça se voit et ça se mesure grâce à des appareils aux différentes échelles. La synapse, c'est l'ordre du micron. Donc c'est très très petit, il faut des électrodes et des microscopes électroniques pour la voir. Par contre, effectivement, avec de l'imagerie cérébrale, imagerie de type IRM, on arrive, IRM fonctionnel, on arrive à voir des changements du cortex cérébral qui est plus macroscopique.
Armel Rancillac.
Oui, il y a une étude aussi très amusante qui a été effectuée chez les chauffeurs de taxi londoniens.
Ah, on en parlera tout à l'heure, oui, effectivement. Oui. Non, mais vous pouvez déjà nous en donner quelques éléments, mais on entendra tout à l'heure un exemple là-dessus. Qui présentent des différences très sensibles.
Exactement, où ils ont montré que vraiment la taille de l'hippocampe, donc qui gère l'information de mémorisation spatiale, s'est vraiment augmentée au cours des 4 années d'apprentissage des chauffeurs de taxi.
Oui.
Donc vraiment pour illustrer la plasticité du fait que des sous-régions du cerveau peuvent s'adapter à l'apprentissage pour avoir des meilleures performances cognitives.
Voilà, performances qui se notent chez les chauffeurs de taxi et qui les différencient des chauffeurs d'autobus, par exemple, pour des raisons qu'on expliquera ensemble tout à l'heure. Philippe Vernier, qu'est-ce qu'on entend par plasticité du cerveau, demande Viron? Est-ce que c'est son adaptation à l'évolution ou son adaptabilité à des changements d'environnement? À vous de jouer.
C'est vrai que le cerveau a changé beaucoup au cours de l'évolution. Chaque espèce a dû adapter son fonctionnement cérébral à son mode de vie. Mais quand on parle de plasticité, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est effectivement de ces modifications de forme et de fonction dont Armel et Hervé viennent de parler. C'est-à-dire ces changements de connectivité, d'efficacité entre les connexions cérébrales. C'est de ça dont on parle quand on parle de plasticité.
Et Jacques demande, est-ce qu'on retrouve le même degré de plasticité chez les autres espèces proches de nous comme les primates? Ben, vous expliquez que tout à l'heure, non. Pas vraiment.
Alors, si on prend les primates, la plasticité cérébrale est du même ordre chez l'adulte, mais c'est vrai que chez l'enfant, le petit homme va avoir des capacités de reconfigurer ses réseaux de neurones et d'astrocytes, bien sûr, beaucoup plus importantes que celles d'un primate. Mais si vous prenez non pas des primates, mais par exemple des poissons ou des grenouilles, ou des lézards, alors là, la capacité de plasticité est bien supérieure à celle du cerveau humain.
Ah oui. Et comment ça se fait alors? Et pourquoi?
Bien parce qu'en fait, ces animaux ont gardé la capacité de si vous voulez, de régénérer des parties entières du cerveau, même quand ces parties de cerveau sont lésées. C'est quelque chose que l'homme a perdu, en quelque sorte. C'est une capacité qu'on trouve chez énormément d'animaux qu'on a tendance à considérer comme inférieurs à tort, et qui, effectivement, sont capables, si vous voulez, à partir de signaux émis par les régions détruites, oui, de régénérer, en fait, qui un nerf optique, qui une partie du cerveau.
Et pourquoi l'homme a perdu cette faculté-là? Il l'a eu dans le passé?
Alors non, l'homme l'a probablement pas eu, mais les ancêtres que nous partageons avec
d'accord,
les poissons...
D'accord, donc on remonte à des millions d'années, là.
Hein. Ah oui, des centaines de millions d'années.
Donc on avait ça au départ, et... Effectivement, au fil de l'évolution, ça s'est perdu.
Ça s'est perdu chez certaines espèces, pas chez toutes, loin de là. Et justement, c'est une des voies de recherche d'essayer de comprendre pourquoi certaines espèces sont capables de régénérer un membre. Par exemple, vous savez, l'histoire célèbre de la salamandre qui régénère sa queue ou son membre supérieur, alors qu'effectivement, nous, on n'est pas capable de faire ça. Il y a beaucoup de travaux dans ce domaine ces dernières années.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre notre conversation autour du cerveau. Franceinter.fr, bien sûr, pour nous retrouver. Et le mot-clé, l'attaque.
Navigateur solitaire, tu traverses les univers. Navigateur solitaire, tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Si les vagues sont tes maîtresses, ta femme c'est l'infini. Ni satellite, ni GPS, seule la belle étoile au ciel. Navigateur solitaire, tu as grandi les univers. Navigateur solitaire, tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Des corps de femmes alanguis, la lune s'allume qu'à pour toi, unique adorateur de l'univers. Soleil dehors, soleil dedans. Passer le cap, hisser le foc, le courant t'emporte droit devant. Navigateur solitaire, soleil dehors, soleil dedans. Laissez soucis à l'arrière, le courant t'emporte.
Navigateur solitaire, Arthur H. Allez, ça chauffe dans le cerveau cet après-midi. Armelle Rancillac, Hervé Schneves et Philippe Vernier sont là pour nous parler de la plasticité avec vos messages nombreux qui arrivent sur franceinter.fr et le mot-clé est l'attaque. Hervé Schneves, on revient juste sur cette capacité de régénération dont on parlait tout à l'heure avec Philippe Vernier et qui a été perdue, donc, en tout cas pour les hommes au fil de l'évolution. Est-ce qu'en revanche, ça a permis à d'autres capacités d'émerger?
Probablement, c'est un compromis qu'a trouvé l'évolution, parce que il n'y a pas forcément de solution définitive, mais c'est un compromis qu'a trouvé l'évolution pour permettre à ce très grand cerveau, il faut voir que notre cortex cérébral fait 1 mètre carré si on l'étalait sur la table.
Ah oui, pas mal.
À ce très grand cerveau, avec, on a parlé tout à l'heure, 200 milliards de cellules. Mm-hmm. Chacune de ces cellules fait entre 50 000 et 500 000 connexions avec d'autres cellules. Donc, il faut trouver à un moment un compromis entre une capacité d'établir des contacts et de remanier ces contacts et une capacité de stabiliser ces contacts. Alors on sait par exemple que dans l'hippocampe, il y a un certain nombre de cellules souches neurales qui peuvent devenir des nouveaux neurones, oui. Et que cette production est importante pour la mise en place de nouveaux souvenirs. Mais on sait aussi que c'est très très peu de cellules et que c'est très très peu de cellules suffisent, elles sont nécessaires et suffisantes. Oui. Donc, est-ce que c'est une question de quantité un peu? Est-ce que c'est une question de qualité? Beaucoup. Oui. C'est ce que Philippe Vernier a déjà dit tout à l'heure sur la différence avec nos autres cousins primates. On a une extension du cortex préfrontal, la partie qui est au niveau de notre front. On a une extension des traitements en parallèle de l'information. Donc, c'est plutôt une réorganisation chez l'humain du mode de fonctionnement du cerveau, en plus de quelques capacités supplémentaires.
Et donc, fabriquer de nouveaux neurones, Armelle Rancillac, on a cette capacité-là aussi?
La neurogenèse, tout à fait. Mais effectivement, ça reste localisé dans des zones du cerveau très particulières et c'est pas non plus le phénomène le plus utilisé pour faire de la plasticité, bien qu'il soit quand même essentiel et altéré notamment dans le phénomène de stress. Bloque la plasticité, notamment en bloquant un peu la neurogenèse et la plasticité synaptique.
Et ça, Philippe Vernier, on a cette capacité tout au long de la vie quand même de fabriquer de nouveaux neurones ou pas?
Oui, on a cette capacité tout au long de la vie. Il reste encore aujourd'hui difficile de savoir si il y a un épuisement total de ces cellules souches dont on vient de parler avec le grand âge.
Ouais.
Mais globalement, en tout cas, les capacités de neurogenèse, oui, se maintiennent tout au long de la vie. Et comme l'a dit Armelle, c'est important mais pas essentiel.
Christophe nous dit sur Twitter, est-ce que la plasticité diminue avec l'âge et le cerveau humain est-il le seul concerné par elle? Qui veut répondre, Philippe Vernier?
Oui, la plasticité diminue avec l'âge, surtout elle change de nature. C'est-à-dire que c'est vrai que dans la petite enfance, par exemple, les réseaux de neurones dont on parlait tout à l'heure se raffinent pour permettre d'agir de façon plus efficace. Avec l'âge, ils ont plutôt tendance à se reconfigurer, à modifier, si vous voulez, les différentes parties qui vont rentrer en connexion les unes avec les autres. Mais pour prendre, par exemple, des exemples précis, c'est vrai qu'avec le grand âge, la mémoire rapide, la mémoire de travail, celle qu'on utilise, par exemple, dans le calcul mental, va avoir tendance à diminuer. En revanche, la capacité à prendre une bonne décision sur la base des expériences vécues va avoir, au contraire, tendance à s'améliorer. Donc, encore une fois, tout dépend de quoi on parle, mais le grand âge n'est pas du tout une faiblesse à tous les coups.
Armelle Rancillac.
Il y a un phénomène aussi important qui se passe au cours de l'évolution à l'échelle humaine. Donc ça va être la myélinisation qui va bloquer la maturation et les phénomènes de plasticité neuronale. Et notamment, ça va empêcher l'acquisition du langage. C'est-à-dire, ça a été observé chez des animaux enfants sauvages, enfants loups, qui ont été abandonnés, enfin pas abandonnés, mais égarés dans la nature, qu'on a récupérés à l'âge adulte. Et on s'est aperçu que plus ils étaient âgés, et donc après la période de 6 ans globalement, on pense, il était très difficile d'acquérir le langage parce qu'il y a des périodes critiques de développement à partir desquelles on ne peut plus acquérir certaines capacités. Et donc le langage, par exemple, voilà, il vaut mieux l'acquérir avant 6 ans. Et il y a aussi d'autres exemples qui sont importants de souligner, c'est que l'acquisition d'une seconde langue, s'il est fait après un certain âge, notamment après la puberté, il ne va pas être impliqué les mêmes circuits neuronaux que la langue maternelle primordiale. Ça, c'est vraiment un IRM fonctionnel. On est capable de mettre en évidence que les zones du cerveau concernées diffèrent. Et ça montre vraiment que le traitement de l'information au niveau neuronal et plastique et pas le même en fonction de l'âge où il est acquis.
Alors justement, Hervé Schneves, quand on dit que notre cerveau est malléable, qu'il arrive à se modeler selon les événements, qu'est-ce qu'on entend par événement précisément? Qu'est-ce qui parvient à agir sur cette plasticité alors?
Bien, comme Armel vient de le dire, il y a des événements qui sont des phénomènes physiques qui sont liés à l'âge et à des périodes critiques. C'est donc, par exemple, ce qui vient d'être dit pour l'acquisition du langage en général. Mmh. Et puis, au contraire, il y a des régions du cerveau qui peuvent remodeler leur fonctionnalité en fonction de l'acquis. C'est un exemple, par exemple, du groupe de Stanislas Dehaene sur l'apprentissage de la lecture. Ils ont pris un groupe de personnes qui étaient analphabètes, ils ont enregistré en IRM l'activité de leur cerveau, et évidemment, l'activité qui était dédiée à la reconnaissance des lettres, à la reconnaissance d'un écrit, n'était pas activée. Ces personnes ont appris à lire alors qu'il s'agissait d'adultes, et les mêmes expériences, les IRM, ont été refaites environ un an plus tard. Et cette fois-ci, les régions cérébrales qui, chez vous et moi, qui avons appris à lire dans l'enfance, sont activées, étaient de nouveau activées, et sans différence significative entre ceux qui avaient appris à lire et à écrire dans l'enfance et ceux qui avaient appris à lire et à écrire à l'âge adulte. Donc, selon le type d'activité, peut-être selon l'intensité, la globalité, peut-être en fonction du degré de myélinisation de certains circuits, il y a des spécificités probablement de certains circuits, selon aussi le fait que ces zones qui sont impliquées dans la reconnaissance de la lecture et de l'écriture sont aussi des zones qui peuvent être impliquées dans la reconnaissance de paysages, donc que l'activité fonctionnelle de ces zones n'avait pas été totalement perdue, elle était simplement allouée à une autre activité que le fait de lire et écrire, eh bien, nous sommes capables de reconfigurer des activités fonctionnelles. Et je parlais tout à l'heure de la main gauche du violoniste. Si le violoniste arrête de jouer, la région supplémentaire sera perdue et réallouée à une autre fonction.
Donc il y a un recyclage en fait permanent aussi.
Une restructuration et une réallocation des fonctions cérébrales pour d'autres choses. C'est aussi pour ça, peut-être on en reparlera tout à l'heure, que aujourd'hui on recommande beaucoup d'exercices cognitifs, beaucoup de rébus, beaucoup de sudoku, beaucoup de mots croisés, parce que on se rend compte aussi que cette réserve cognitive qui est constituée au cours de la vie, elle permet de retarder l'entrée dans des maladies neurodégénératives avec composantes démentielles comme la maladie d'Alzheimer. Et on se rend compte aujourd'hui, c'est un peu la bonne nouvelle des études épidémiologiques récentes, que l'incidence de la maladie d'Alzheimer semble diminuer parce que les nouvelles générations qui devraient rentrer dans la maladie aujourd'hui ont reçu un niveau d'éducation supérieur, ont aussi probablement lutté mieux contre des maladies comme l'hypertension ou l'hypercholestérolémie. Mm-hmm. Et que du coup, eh bien, on ne va pas supprimer la maladie d'Alzheimer, mais on va la retarder de quelques années.
Gilles nous demande sur franceinter.fr, Philippe Vernier, si notre cerveau est en augmentation ou en diminution de volume. Alors, spécialiste de l'évolution.
Alors, au cours de l'évolution humaine, c'est vrai que le cerveau des Néandertaliens était un petit peu plus gros que le nôtre. Oui, assez sensiblement d'ailleurs, mm-hmm. en moyenne. Il est vrai qu'il semble qu'il y ait une tendance, mais qui doit être encore confirmée, mais il y a une étude récente qui le montre avec une petite tendance à la diminution générale au cours des millénaires, il semble. Mais encore une fois, ceci n'est pas forcément très significatif. Et ce qui est important, c'est pas tellement... Ce qui est important, c'est le nombre de neurones, si
plus
vous voulez,
que la taille, volume, plus que le volume global, du cerveau lui-même.
Voilà, exactement. Ouais. Comme Hervé Schneves le disait tout à l'heure, la grande majorité de nos cellules ne sont pas des neurones, mais des cellules gliales chez l'homme.
Ouais. Est-ce que ça veut dire que, justement, pour parler de Néandertal et d'Homo sapiens, est-ce qu'il y avait une vraie différence de neurones, selon vous, alors
on ne le sait pas. Culturellement, il y avait beaucoup de similitudes, puisqu'on sait aujourd'hui que les Néandertaliens avaient des cultures
très développées déjà, assez évoluées.
Très semblables à celles des Cro-Magnons, qui étaient leurs contemporains. Mais il est probable, oui, que pour certaines fonctions cérébrales, il y avait des différences. On parlait tout à l'heure du lobe préfrontal, enfin de la région préfrontale du cerveau. Elle semble un peu moins développé chez les Néandertaliens, encore que là aussi il faut se méfier de ça, parce qu'on c'est pas parce que le volume préfrontal est plus bas que en fait les fonctions qui lui sont associées n'existaient pas. On sait par exemple que chez les oiseaux qui n'ont pas véritablement de cortex préfrontal, ils ont quelque chose qui joue le même rôle et qui n'est pas dans le cortex frontal, qui est ailleurs dans le cerveau. Oui. Donc là aussi ces reconfigurations évolutives sont très importantes et c'est très difficile de tirer des enseignements de simplement, si vous voulez, de l'analyse des crânes.
Et donc, ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que le développement cérébral de l'homme commence dans le ventre de la mère, en fait.
Ah bah oui, bien sûr, le cerveau, comme tout l'embryon, se développe d'abord dans le cerveau de la mère. Ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que le cerveau, si vous voulez, d'abord il se forme, et puis ensuite il grandit en taille. Principalement, une grande partie du développement embryonnaire correspond essentiellement à de l'augmentation de taille. Et cette augmentation de taille, elle se poursuit après la naissance à un rythme important.
Ça commence évidemment dans le ventre de la mère, et ça se poursuit surtout après la naissance.
Voilà, jusqu'à à peu près une dizaine d'années après la naissance.
Mais ce qu'il faut voir, c'est que dans un premier temps, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup trop de cellules pour les besoins et que donc tout ce qui va se passer dans les premiers temps de la vie postnatale, ça va être de supprimer des cellules. Par exemple, au niveau de la moelle épinière, on a deux fois trop de motoneurones par rapport. C'est comme ça,
pourquoi
c'est produit
ce
et il va falloir sélectionner. Et ces cellules vont être sélectionnées selon qu'elles sont en activité ou pas. Et si ça n'est pas fait, on va avoir des maladies. Au niveau du cortex cérébral, ça va s'appeler des lysencéphalies, ça va donner des épilepsies redoutables. Donc, l'évolution, c'est d'abord d'avoir beaucoup trop de cellules et puis de sélectionner. Et puis, dans un deuxième temps, à partir de ces circuits sélectionnés, on va avoir une nouvelle étape qui va être l'étape de remodelage, de renforcement de certains circuits et d'inhibition d'autres.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de ce dossier. Franceinter.fr pour parler ensemble de la plasticité cérébrale à l'occasion de la semaine du cerveau.
Help.
Et c'est Ben Harper à l'instant dans notre tête au carré. Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de l'émission Plasticité cérébrale, donc au menu du dossier cet après-midi avec Armelle Rancillac, Hervé Schneves et Philippe Vernier. Armelle Rancillac, on peut inviter tous les auditeurs à aller voir ce qui se passe dans la semaine du cerveau. Hein. Il y a un site internet qui est fait, très bien.
Ah oui, alors
avec
la semaine du cerveau.
Rendez-vous partout.
Il y a 32 villes en France qui sont impliquées. Mm-hmm. Donc forcément, en allant sur le programme donc, qui est sur la semaine-du-cerveau.fr, vous trouverez un événement qui vous intéressera.
Près de chez vous. Forcément. Avec des chercheurs qui seront là à disposition pour bien vous parler.
L'offre est très éclectique parce qu'elle regroupe donc des cafés des sciences, des conférences grand public, des ateliers scientifiques, des projections de films, des pièces de théâtre, mais aussi des expositions et des manifestations littéraires.
Voilà, donc le programme, il est en lien évidemment sur la tête au carré. Philippe Vernier, Twitter à fond la science, nous envoie un petit message pour nous parler des animaux nombreux qui ont gardé la capacité de régénérer des parties entières du cerveau. C'est pour compléter un peu ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Oui, donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est que les travaux récents montrent que cette régénération, elle est pas du tout provoquée par les mêmes mécanismes que ceux qui surviennent au cours de l'embryologie, de l'embryogenèse justement, au cours du développement chez la mère, si vous voulez. C'est plutôt des signaux de type inflammatoire liés à la lésion qui vont permettre de déclencher cette régénération. Donc c'est contrairement à ce qu'on pensait, c'est pas exactement une récapitulation du développement, mais en fait une vraie capacité de régénérer qui semble exister chez ces animaux.
Là, juste, on va s'écarter un instant, mais c'est une mise en garde qui est à faire. À cause des travaux qui sont développés chez l'animal, il y a eu toute une efflorescence de propositions, souvent dans des pays exotiques, pour utiliser certaines cellules souches de la moelle osseuse, les cellules qui sont précurseurs du sang, qui portent un marqueur qui s'appelle CD34, et pour les injecter n'importe où, en particulier chez des gens dans le cerveau après un infarctus cérébral, sous prétexte que ça diminuerait l'inflammation, sous prétexte que ça pourrait régénérer des neurones. Il faut mettre en garde le public contre le fait que c'est du charlatanisme et que nous n'avons aucune donnée qui permette de penser que ces cellules issues de la moelle osseuse sont capables de régénérer du tissu nerveux chez l'homme.
Le cerveau des chauffeurs de taxi, vous en parliez tout à l'heure, Armelle Rancillac, c'est un véritable objet de science. Je vous propose justement, pour l'illustrer, l'extrait d'un reportage réalisé par l'AFP à ce sujet.
La plupart du temps, je le fais sans même y réfléchir. Ça ne me stresse pas plus que ça. La seule chose à laquelle vous pensez, c'est « Ok, je dois aller là, je dois passer par là, c'est parti ». Mon cerveau est conditionné à réagir de cette manière.
Ces capacités d'orientation fascinent les scientifiques. Des chercheurs ont ainsi étudié les méninges des chauffeurs londoniens et établi que conduire un black cab développe une zone particulière du cerveau, l'hippocampe.
Nous avons découvert que l'hippocampe semblait être lié à des repères spatiaux et à l'apprentissage, à la description des cellules-lieux.
À l'origine de cette abondance de matière grise, la formation que les chauffeurs doivent suivre avant de sillonner la ville. Comme ici, dans cette école baptisée La Connaissance. Objectif, retenir les noms et les emplacements de 25 000 rues dans une ville 10 fois plus grande que Paris.
Vers Manor Station, direction Upper Street et à gauche.
Tu continues à réfléchir comme un élève, tu ne visualises pas devant toi, regarde devant toi.
Pour connaître Londres comme leur poche, les aspirants chauffeurs travaillent en moyenne 3 ans avant d'obtenir leur diplôme. Le taux d'échec est impressionnant, près de 30% n'obtiennent pas le sésame.
Voilà Armelle Rancillac. Et lorsque l'on regarde vraiment le cerveau d'un chauffeur de taxi, alors on y voit de vraies différences anatomiques alors.
C'est en IRM
fonctionnel. Dans ces zones-là en tout cas. Hein.
Effectivement, on peut s'apercevoir que la zone hippocampe qui gère cette capacité-là est vraiment de taille plus importante qu'avant qu'il se soit entraîné pour cet examen-là.
Hervé Schneves, Jean-Paul nous dit ceci, le cerveau se transforme en fonction de ses expériences, on ne peut que penser aussi au système immunitaire qui fait pareil. Est-ce qu'il y aurait des liens entre ces deux systèmes, demande Jean-Paul, en termes évolutifs, et d'autres mécanismes biologiques présentent-ils le même comportement ?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le système immunitaire, les instructions qui passent d'une cellule qu'on appelle le macrophage, qui est la première ligne de reconnaissance, à une cellule la plus longue mémoire qu'on appelle le lymphocyte. Mm-hmm. On parle de synapse immunitaire. Donc, il y a aussi un transfert d'informations. Alors, c'est plutôt une métaphore qu'une évolution commune. C'est deux systèmes de communication, deux systèmes d'information qui permettent à des cellules de communiquer l'une avec l'autre et de se transmettre de l'information, soit via des molécules qui sont passées d'une à l'autre, soit via des contacts. Et on sait que certaines molécules à la surface des cellules sont importantes pour transmettre de l'information. Est-ce que ça se passe dans d'autres systèmes ? Oui. Vous avez donné, par exemple, tout à l'heure comme information qu'une molécule comme l'armine était capable de lutter contre le diabète.
Oui.
Une des stratégies qu'on a, c'est, on va dire vite, que dans le pancréas endocrine, il y a deux types de cellules, les alpha et les bêta, celles qui sont perdues dans le diabète, c'est les bêta. Et
ouais.
Bien, peut-être qu'avec des molécules qui instruiraient les alpha à devenir des bêta, on arriverait à trouver une façon endogène et grâce à la plasticité cellulaire, de traiter certaines maladies. C'est tout l'enjeu de la médecine régénérative.
Ouais. On parlait de l'ayahuasca tout à l'heure, hein, cette plante donc, qui permettrait peut-être, en tout cas, d'agir de cette façon-là. Guillaume demande ceci sur franceinter.fr. Qu'en est-il des modifications du cerveau à l'apparition de la puberté ? En quoi ces modifications peuvent expliquer une hypersensibilité au sujet adolescent ? Philippe Vernier, vous voulez donner un élément de réponse ?
Alors, que le cerveau des adolescents change, tous les parents le vivent au quotidien, donc ce n'est pas une découverte majeure et récente, mais effectivement, oui, il y a des modifications très importantes dans le cerveau des adolescents, tout un ensemble de reconfigurations, justement, de certaines aires cérébrales qui ont été d'ailleurs pas mal étudiées, y compris en France, à Neurospin, dont on parlait tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui n'est pas particulier à l'espèce humaine, là aussi, hein. Tous les adolescents animaux ont le même type de reconfiguration.
Myriam nous dit ceci, j'ai eu un AVC en 2005, aphasique, j'ai réussi à vous écrire là grâce à l'utilisation du clavier. L'écriture et la lecture manuscrite sont encore difficiles, mais j'ai la preuve de la plasticité de mon cerveau, même passé 45 ans. Hervé Schneves.
Oui, bien sûr. Ce sont des circuits de suppléance qui se mettent en place. Et les neurones qui ont été lésés l'ont été, mais des neurones voisins ont poussé des arborisations. Et grâce à de nouveaux circuits, il est capable de retrouver des fonctions. Et aujourd'hui, il y a tout un ensemble de stratégies de rééducation qui jouent justement sur la visualisation par le malade lui-même de ces circuits, de la régénération de ces circuits, ce qu'on appelle le biofeedback, qui permettent des gains importants de rééducation.
Armel Rancillac, pour terminer, le sommeil, c'est important aussi pour la plasticité cérébrale. Vous faites des études dans ce domaine-là.
Ouais. Effectivement, le manque de sommeil a été étroitement associé à une diminution des performances cognitives, de même que le stress. Donc vraiment, pour avoir une plasticité optimale, je recommande d'être zen, de bien dormir, et de faire réfléchir et faire fonctionner son cerveau le plus possible.
Eh bien, en tout cas, on aura l'occasion d'aller, voilà.
Et d'aller à la semaine du cerveau.
À la semaine du cerveau, je l'allais le dire hier, mais je n'allais pas oublier ma mission. Ça commence aujourd'hui jusqu'au 22 mars et c'est partout en France. Et vous avez tout le programme qui est en lien sur le site mis à votre disposition sur La Tête au Carré. Merci beaucoup à tous les trois.